Que Dieu soit béni. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu maintenant et poursuivre sur ce thème du Saint-Esprit que nous avons vu à plusieurs reprises. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons parlé de la régénération, de la nouvelle naissance qui est provoquée par le Saint-Esprit, de la sanctification. Aussi, on a parlé du fruit de l'Esprit la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons parler des dons spirituels et lire un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12 et verset 1. Voilà ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, 1. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alors qu'est-ce qu'un don spirituel? Si on s'intéresse à ce sujet, c'est un terme qui vient du grec pneumatika, qui signifie manifestation de l'esprit, et elle est utile surtout pour l'utilité commune. C'est présenté au verset 7. Les dons sont donc des manifestations de l'esprit pour l'utilité commune ou pour que les autres en retirent quelque chose pour l'Église. Le don spirituel n'est pas d'origine humaine, il est d'origine divine. On va se rendre compte que les dons spirituels ne sont pas uniformes, mais ils sont variés, diversifiés. Le don spirituel n'est pas préparé, mais il est spontané, il est communiqué par Dieu au moment où il doit être exercé. Et si on se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière concernant le fruit de l'esprit, on a dit que le fruit c'était lent et progressif, et on va voir que les dons spirituels c'est instantané et ponctuel. Donc c'est deux manières différentes d'agir de l'esprit qui sont tout à fait complémentaires, mais qu'il nous faut distinguer pour bien appréhender le sujet. Autre question en introduction toujours, pourquoi les dons sont-ils accordés? Les dons sont accordés pas pour une personne, la personne qui les exerce elle-même, on l'a vu, c'est pour l'utilité commune. Alors c'est vrai que quelqu'un qui exerce un don va en retrouver quelque chose de positif, mais le but, c'est que les autres en soient édifiés. Le don n'est pas donné pour que nous puissions en tirer une gloire personnelle. Parce qu'il pourrait y avoir une tendance à l'orgueil pour celui qui exerce un don spirituel, de se dire « c'est moi qui ai exercé le don spirituel ». Or, c'est l'Esprit qui a choisi d'attribuer à tel ou tel un don. Et il n'y a aucun mérite dans les dons spirituels. D'ailleurs, un autre terme pour définir les dons, c'est le mot charismata en grec qui signifie don de grâce, don gratuit. C'est donc Dieu qui l'accorde sans aucun mérite de notre part. Alors il est donné pour, premièrement, pour manifester la présence de Dieu parmi son peuple. Il est aussi donné pour permettre que l'annonce de l'Évangile soit plus efficace avec une démonstration, par exemple des guérisons, par exemple des délivrances, des miracles. Il est accordé aussi pour répondre aux besoins des gens. Il y a des gens qui viennent dans ces auditoires qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ont des besoins. Peut-être certains sont malades, certains ont besoin d'une parole de Dieu ou du salut tout simplement, de la vie éternelle. Alors les dons spirituels servent aussi pour les non-croyants. Ils servent aussi bien sûr pour les croyants. Ils servent à les édifier, les exhorter et les consoler. Les dons spirituels servent aussi pour lutter contre toute la puissance des ténèbres et contre le diable qui veut étendre son royaume dans ce monde. Donc ces dons vont être utiles pour démasquer l'œuvre des ténèbres. Qui peut exercer les dons ? La Bible nous montre que tout croyant qui est rempli du Saint-Esprit peut exercer les dons. C'est donné à chacun, et c'est dit dans le texte qu'on a lu ensemble, à chacun est donné, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, etc. Mais au verset 7, c'est dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc tous, potentiellement, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons exercer des dons spirituels. Les dons sont accordés en fonction de la volonté de l'Esprit. C'est donc lui qui choisit qui il va utiliser et le don qu'il va accorder, et c'est à nous de l'exercer par la foi. Alors, on va voir ensemble les 9 dons qui sont mentionnés ici, à partir du verset 8. Donc, le premier don, c'est la parole de sagesse. Alors, à chaque fois, on va voir un exemple de ce qu'est ce don spirituel. Et pour un exemple de parole de sagesse, nous pouvons lire dans Jean chapitre 8 et verset 7, une parole de sagesse de Jésus ici, qui dit « Comme ils continuaient, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, ceux qui voulaient condamner la femme adultère, ils continuaient à l'interroger, il se leva et leur dit, donc c'est Jésus qui dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Bien sûr, ce récit se situe lorsque les scribes et les pharisiens ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de l'Ancien Testament, de telles personnes devaient être lapidées. Pas simplement la femme d'ailleurs, mais aussi l'homme. Les deux devaient être convoqués et devaient être mis à mort. Et c'est mentionné dans Lévitique chapitre 20 verset 10. Et pour éprouver Jésus, donc ils ont pris une situation, ils ont ramené que la femme, et ils ont dit, voilà ce que dit la loi. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette circonstance ? Alors, c'était une question pour le piéger, en quelque sorte pour dire à Jésus, et toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à la loi ? Est-ce que tu t'estimes supérieur à la loi ? Ou est-ce que tu vas dire autre chose que la loi ? Alors, si Jésus répond, il faut lapider cette femme, comme la loi l'enseignait dans Lévitique, alors, il est en contradiction avec la grâce qu'il est venu apporter, parce que Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ça, c'est mentionné dans les Écritures. Jésus aime tous les hommes et il veut les sauver. Donc, il n'a pas répondu cela. Et si Jésus répond, il faut lui faire grâce, il se met en porte-à-faux alors avec la loi. Et il ne pouvait pas non plus, dans le sens où il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir et lui montrer la véritable interprétation, la véritable orientation. Donc, Jésus était en quelque sorte pris entre deux feux. Il fallait qu'il réponde d'une manière la plus sage possible. Et c'est ça le don de sagesse. Les pharisiens n'attendaient que de lui une réponse comme par exemple « il faut lui faire grâce ». Comme ça, ils auraient pu le juger, le condamner par rapport à leur loi. Dans cette situation qui semble sans issue, eh bien Jésus va donner cette parole « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Alors ça veut dire qu'il va renvoyer les accusateurs à la loi, parce que ces accusateurs, ils se réfèrent à la loi. Ils disent « Voilà ce que la loi dit. » Et Jésus va leur expliquer en quelque sorte « Vous qui voulez juger une personne à cause de son péché, » bien, il va mettre devant eux la loi. Que dit la loi ? La loi dit qu'il faut respecter toute la loi, sinon on est pécheur. Et ainsi, sachant dans leur conscience qu'eux-mêmes n'étaient pas irréprochables vis-à-vis de Dieu, qu'ils avaient des péchés dans leur vie, ben, ils vont se sentir aussi devant Dieu coupables, et personne ne va pouvoir jeter la pierre. La Bible dit que tous, ils se retirèrent depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu jeter la pierre à cette femme, selon l'expression de Jésus, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Ben, c'était Jésus lui-même, puisque Jésus a observé toute la loi, il était sans péché, et il pouvait lui-même appliquer cette sentence s'il le désirait. Mais il a décidé de faire grâce en disant à cette femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Et là, on voit tout l'amour de Jésus, qui à la fois a répondu par une parole de sagesse à l'auditoire, qui a fait grâce malgré tout à cette femme et qui lui a enseigné de ne plus continuer sur cette voie de péché dans laquelle elle était, parce qu'il voulait sauver l'âme de cette femme et non pas la faire périr sous les cailloux. Ça, c'est un exemple de parole de sagesse. Si on peut définir qu'est-ce qu'une parole de sagesse, on peut dire ainsi, c'est d'apporter une réponse instantanée à un problème apparemment sans solution. Il faut distinguer la parole de sagesse aussi de la sagesse humaine. On a tous, avec les années, les cheveux blancs qui poussent et la sagesse qui se développe quelque part, c'est la sagesse humaine. Normalement, avec l'expérience de la vie, on acquiert une certaine compréhension des choses et on est moins impulsif et on réfléchit davantage. Le don de la sagesse n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Il n'est pas non plus lié à la sagesse liée au fait qu'on est chrétien. Parce que quand on est chrétien, on va avoir une certaine maturité spirituelle et on va comprendre encore les choses d'une manière différente de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est, on pourrait dire, une sagesse spirituelle. Mais ce n'est pas encore cela le don de la sagesse. Et pourtant, cette sagesse qui est spirituelle est utile, mais elle s'obtient différemment. Comment est-ce que je vais devenir sage selon le Seigneur ? Bien, ça va être en priant, en lisant la parole de Dieu, en étant en communion avec le Seigneur, ça va se faire lentement et progressivement. Tandis que le don de sagesse, le don de la parole de sagesse exactement, il est instantané et il n'est pas lié à forcément un travail ou quelque chose de particulier. Ce don d'ailleurs a été promis par Jésus lui-même. Il a dit, lorsque vous serez accusés, il a dit, je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou la contredire. Donc Jésus nous a promis de nous donner dans des circonstances d'opposition, des circonstances où on sera acculé, où on n'aura plus de possibilité de manœuvre, eh bien la sagesse, le don de sagesse vient à ce moment-là. Et vous voyez que ce n'est pas programmé, c'est pas, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais ça vient au bon moment. Deuxième don spirituel, on va passer à la parole de connaissance. Et nous pouvons lire ce texte dans Actes chapitre 5, verset 3. Un autre exemple ici, c'est Pierre qui va recevoir à propos d'Ananias et Saphira une parole de connaissance. Ananias, dit Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous connaissez cette histoire d'Ananias et de Saphira, qui était un couple de chrétiens de l'église de Jérusalem. Et ils étaient fidèles aux réunions, du moins en apparence, mais dans le secret, ils avaient fait une sorte de plan, de pacte tous les deux. Ils avaient dit, bien, on va vendre telle propriété qui nous appartient, et puis on va faire croire qu'on va donner tout l'argent de cette propriété à l'église. C'était en quelque sorte pour se donner l'apparence de personnes généreuses avec Dieu, parce que d'autres l'avaient fait. Si vous lisez les versets précédents, c'est mentionné que des chrétiens vendaient leur propriété, apportaient aux apôtres, et eux, ils n'avaient pas tout à fait la même conception, ils ne voulaient pas tout donner, mais en même temps, ils voulaient paraître comme ceux qui donnent. Alors, en apportant l'argent, ainsi, ils ont fait croire quelque chose de faux à leur égard. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Est-ce qu'ils voulaient simuler une plus grande générosité, comme d'autres ? Bien, la Bible ne le dit pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le péché ne réside pas dans le fait d'avoir gardé pour eux une partie du champ. Parce que ça, ils en avaient tout à fait le droit. Le péché ne réside pas là. Le péché réside dans le fait qu'ils ont menti à l'égard de la somme qu'ils ont donnée. Il faut bien comprendre où se situe le problème. Et les deux seules personnes à connaître cette tromperie, c'était Ananias et Saphira. Mais une troisième personne a assisté à ces délibérations, c'était Jésus. Parce que Jésus est présent par son esprit partout. Et il entend tout, et il entend quand nous mentons, ou si nous ne disons pas la vérité, si nous trompons, il le voit. Bien sûr, Pierre, lui, n'est pas devin, Pierre n'est pas un magicien, il n'a pas du tout su ce qui s'était passé, il ignorait tout de l'affaire, mais il faisait confiance à ce couple, et il les recevait avec joie, et ainsi le Seigneur l'a arrêté. Et Pierre a reçu une parole de connaissance les concernant, et a dit ainsi, « Ananias, Satan a rempli ton cœur, tu as voulu tromper l'Église, et ce n'est pas bien. » Alors le Saint-Esprit a donc tout révélé, tout dévoilé à l'apôtre Pierre. Ce couple avait menti, quelque chose de plus grave encore, ils avaient ouvert leur cœur à Satan, c'est marqué au verset 3. « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Il est impossible que Satan vienne dans le cœur d'un chrétien, sauf si le chrétien délibérément ouvre son cœur à l'adversaire d'une manière folle, insensée, c'est ce qui a été leur cas. Et ainsi, c'est l'ennemi qui les a dirigés. Et cette parole de connaissance a été bénéfique parce que non seulement un péché a été dévoilé, mais en plus, la sanctification a été préservée dans l'Église. Et c'est nécessaire de marcher dans la sanctification. Au sein de l'Église, ça nous montre qu'il peut s'infiltrer toutes sortes d'individus. Il n'y a pas que des gens réellement convertis. Il y a aussi, on pourrait les appeler... ceux qui ont l'apparence d'agneaux, mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Ça existe dans les rassemblements. Ils ne font pas partie réellement de l'Église de Christ, dans le sens où ils ne sont pas sauvés, mais dans un sens, ils ont une apparence chrétienne, une apparence de séduction, et on voit que leur œuvre porte des fruits qui sont à la gloire du diable. Et cela, malheureusement, on l'a constaté nous-mêmes dans différentes églises où on a pu passer, que des loups ravisseurs... De toute apparence, ils étaient des chrétiens authentiques et pourtant, dans leur vie, il y avait beaucoup de choses qui étaient trompeuses et qui ont entraîné à leur suite des chrétiens fragiles, des chrétiens mal affermis. La parole de connaissance, on peut la définir comme une communication surnaturelle de l'esprit d'information qu'il est impossible à connaître par la nature humaine. C'est donc l'esprit qui sait tout, qui voit tout, qui va révéler. La parole de connaissance n'est pas une intuition. Quelquefois, on a des intuitions heureuses, et c'est bien à notre avantage, et tant mieux. Mais ce n'est pas une intuition, la parole de connaissance. La parole de connaissance n'est pas non plus liée à notre connaissance, en quelque sorte, des Écritures. Certains ont compris que la parole de connaissance, c'était la parole de la connaissance de la Bible. Non, nous ne pensons pas que ce don fait référence à la connaissance de l'Écriture ou à un degré de culture générale plus élevé, d'une connaissance plus étendue, mais nous croyons que c'est un don spirituel, c'est-à-dire surnaturel, qui vient de Dieu à un moment donné pour révéler une situation tordue, une situation ambiguë, ou révéler, répondre à une situation cachée qui a besoin d'être mise en lumière et qui va l'être par ce don. Ça, c'était le deuxième don. Le troisième, c'est le don de la foi. On va le distinguer de la foi qui sauve. Le don spirituel de la foi. Dans Daniel chapitre 3, verset 17, on retrouve ici trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, qui répondent au roi. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. » Ces trois Hébreux que j'ai mentionnés avaient une grande responsabilité, bien qu'ils avaient été arrachés à leur pays d'origine, Israël, et avaient été implantés en Babylonie. Et donc, les souverains babyloniens prenaient les meilleurs, l'élite de ces peuples conquis, et leur donnaient des responsabilités dans leur propre royaume. Et ces trois Hébreux qui avaient des grandes qualités pour gouverner, etc., il leur a confié une province, la province de Babylone. C'était donc des hommes dans l'administration. Et le roi a eu un moment de folie. Ce roi Nabucodonosor, il a voulu se faire adorer par tout son peuple. Et il a construit une statue de 30 mètres de haut, en indiquant que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant cette statue seraient jetés dans la fournaise ardente. Alors évidemment, tous se sont inclinés avec crainte, sauf les trois Hébreux qui ont résisté à cet ordre du roi. C'était dangereux de résister. Immédiatement, ils ont été convoqués. Tout d'abord, le roi voulait les préserver et il leur a demandé des explications. Est-ce que vous aviez bien entendu l'ordre que je vous ai donné? Est-ce que vous aviez bien compris ce qu'il fallait faire, qu'il fallait vous prosterner? Parce qu'il ne veut pas les détruire de suite. Et il veut leur laisser une deuxième chance en leur disant, on va recommencer. Et si là vous ne prosternez pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et c'est là que les trois hommes répondent, c'est pas la peine de recommencer. Nous ne servirons pas tes dieux, nous ne nous inclinerons pas devant la statue. Et nous ne craignons même pas tes menaces de nous jeter dans la fournaise ardente. Et là on peut dire que c'est un don de foi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la conviction, ces trois hommes, que Dieu va les garder du danger alors même qu'ils sont menacés de mort. Là, c'est véritablement particulier. C'est une audace parce que ces trois Hébreux, en quelque sorte, à point de vue humain, c'est un acte de folie dans le sens où ils vont à une mort certaine. En disant « nous ne nous prosternerons pas », ça veut dire bah, « nous allons à la fournaise ». En quelque sorte, ils acceptent les conséquences de leur foi. Nous dirons c'est l'audace de la foi. Mais pour les gens qui voyaient ces trois hommes ainsi devant un souverain qui avait droit de vie ou de mort sur eux, les gens pouvaient dire mais c'est de la folie ce qu'ils sont en train de faire. Mais la folie, selon la parole de Dieu, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et en fait, selon Dieu, ils étaient sages. Selon ce monde, ils étaient insensés. Mais il fallait réagir comme cela, et ce don leur a été communiqué. Ils ne l'avaient pas avant, mais au moment où ils se sont retrouvés devant le roi, ils ont reçu ce don de foi pour croire que Dieu allait les garder de la main de ce roi fanatique. Alors le don de foi, c'est une confiance surnaturelle qui va être communiquée. Dans un contexte, on le voit particulièrement défavorable, un contexte de persécution, d'opposition, de menace, où il semble que tout est perdu. Ce don de foi va nous permettre de croire que Dieu interviendra, que Dieu pourvoira nos besoins, que Dieu nous protégera au-delà de toute logique humaine. Parce que là, on n'est plus dans le rationnel, parce qu'ils n'ont aucune idée de comment le Seigneur va les sortir de cette affaire, parce que ce n'est pas possible. Donc, ils sont uniquement dans une foi qui vient de Dieu et ils vont rester sereins dans le danger. La Bible ne dit pas qu'ils se sont inquiétés, qu'ils se sont posé des questions, comment on va faire, etc. Mais la paix de Dieu a rempli leur cœur et c'est donc ce don de foi qui les a gardés sereins. Alors, je disais, il faut distinguer le don de la foi qui est ponctuel avec la foi qui sauve. Parce que quand nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Ça, c'est la foi qui permet le salut. Mais c'est pas la même chose, le don spirituel de la foi. Car cette foi-là est nécessaire pour être sauvé. Elle nous accompagne tous les jours. D'ailleurs, notre foi doit se développer. On en a parlé avec le fruit de l'esprit, dont une des caractéristiques est la foi. C'est un développement lent et progressif de notre foi qui doit être plus ferme aujourd'hui qu'hier. Mais ça, on en a parlé, c'est le fruit. Tandis que le don, il est ponctuel et il vient dans des moments particuliers, on en a vraiment besoin, comme là pour ces trois Hébreux. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la parole, mais je vais passer au quatrième don spirituel, qui est les dons de guérison, ou les dons des guérisons, en réalité, c'est écrit au pluriel dans l'original. Alors, Actes chapitre 3, verset 6, on peut voir ici Pierre qui va être qui va se retrouver devant un boiteux à l'entrée d'une porte du temple. Alors, Pierre dit à ce boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alors, dans le contexte de ce passage, vous avez Pierre et Jean qui vont au temple l'après-midi, un après-midi vers 15h, dit la parole de Dieu. Et bien sûr, ils y vont comme nous allons dans nos rassemblements pour louer le Seigneur, pour adorer, pour rencontrer d'autres croyants. Or, juste à la porte Labelle, une des portes du temple, il voit cet homme boiteux. Et là, lorsque cet homme impotent, voit Pierre et Jean, il se dit, ben peut-être qu'ils vont me donner de l'argent. Et Pierre n'avait pas prévu de s'arrêter pour cet homme, il n'avait pas prévu de prier pour lui, mais là, dans son cœur, il reçoit de prier pour la guérison de cet homme. Il a été conduit par le Saint-Esprit, ainsi, ce n'était pas organisé, ce n'était pas prémédité, et Pierre s'arrête. Alors il lui dit, mais moi je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or. Et c'est vrai que Pierre et les premiers chrétiens n'avaient rien sur le plan humain, sur le plan financier, comme de l'argent, comme de l'or. D'ailleurs, quand bien même aurait donné de l'argent à cet homme, cela n'aurait pas guéri cet homme et cela n'aurait pas amélioré sa condition ni apporté le salut dans sa vie. Mais il dit, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, Pierre a Jésus dans sa vie. Et ce qu'il a, c'est qu'il a la foi et il croit que Jésus peut guérir cet homme instantanément. En fait, quand on a Jésus dans notre vie, quand bien même on n'a rien sur le plan financier, on a tout en nous parce qu'on a le Seigneur Jésus. Et ça, personne ne peut nous l'enlever, frères et sœurs. Et ça, c'est une bénédiction. Alors, ce passage est typique des guérisons, du don des guérisons, si on peut dire, parce que vous avez les trois caractéristiques qu'on retrouve généralement dans les guérisons divines, dans la parole de Dieu. La première caractéristique, c'est une guérison instantanée, c'est-à-dire, la Bible dit, à l'instant même, ou au même instant, il se redressa. Les chevilles devinrent fermes et il fut guéri. Il n'a pas fallu des mois et des mois de rééducation, mais le don de guérison a permis cette guérison instantanée. Ça n'a pas été une amélioration lente, progressive. La Bible utilise d'ailleurs souvent les mots « aussitôt », « à l'instant même », à l'heure même, il fut guéri, etc., dans beaucoup, beaucoup de guérisons mentionnées. Deuxième caractéristique qu'on trouve, c'est qu'elle est parfaite. C'est-à-dire que cet homme a pu faire, une fois guéri, ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était malade. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se déplacer, et là, on le voit sautant, marchant, même sautant et louant Dieu. Donc, c'est un signe qu'il y a une totale guérison. D'ailleurs, marcher, sauter comme il le fait, ça aurait été même déconseillé certainement par les médecins qui lui auraient suggéré de faire une rééducation, étant donné qu'il n'avait pas marché, c'était un impotent de naissance. Et donc il fallait que ses muscles et tout ça se raffermissent et puis qu'il réutilise ses jambes et puis c'est très long. Mais comme la guérison est parfaite, ça veut dire que les muscles ont été complètement ravigorés, fortifiés, sans besoin de rééducation. Alors même si un médecin avait examiné cet homme après sa guérison, il n'aurait pas pu dire que cet homme avait été impotent parce que tout dans son corps avait été complètement transformé au point qu'il sautait comme s'il n'avait jamais été malade. Et puis la troisième caractéristique qu'on voit dans ce passage, et qu'on retrouve dans toutes les guérisons, c'est que les guérisons sont gratuites. C'est des dons de grâce que aucun apôtre ni Jésus ne s'est fait dédommager ou ne s'est fait payer pour des guérisons. Jésus a dit d'ailleurs, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est par pure grâce que cet homme a été guéri à l'entrée du temple. On sait que Dieu peut aussi guérir de manière progressive. On le voit par l'expérience. Et l'important, c'est de toute manière d'arriver à l'entière guérison. C'est ça qui va être déterminant, qui va être important pour nous. C'est la guérison qui vient de Dieu, c'est l'entière guérison. Alors les dons de guérison, je disais, c'est au pluriel. Ça indique la diversité à la fois des maladies et à la fois ça suggère qu'à chaque fois qu'il y a un don de guérison, c'est un don particulier, un don spécial de Dieu. Ce don va permettre de guérir parfaitement, généralement instantanément, toute espèce de maladie, que ce soit des maladies de l'âme, des maladies du corps, des maladies de l'esprit, même des maladies incurables, comme le cas de cet homme, il n'y avait pas de solution médicale, ben, le Seigneur l'a guéri instantanément. Ce n'est pas une guérison obtenue par des médicaments. Il faut distinguer la guérison divine de la guérison que nous pouvons obtenir par la médecine. Et nous ne sommes pas contre les médecins. D'ailleurs, un des évangélistes qui s'appelle Luc était lui-même médecin. Et merci Seigneur pour les médecins. Et ils peuvent soigner parce que Dieu leur a donné un certain savoir, une intelligence, et ce n'est pas inutile. Donc nous ne sommes pas contre la médecine. Mais le don de guérison n'est pas venu par un médecin. Il est venu par une intervention de Dieu dans la vie d'un homme et qu'il a complètement guéri. Le don des guérisons n'est pas une simple amélioration, mais c'est une totale guérison. Le don aussi n'est pas le pouvoir particulier d'une personne qui serait en quelque sorte un guérisseur. C'est toujours Jésus qui guérit au travers d'une personne, au travers de Pierre, mais ça peut être n'importe quelle autre personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui va exercer le don des guérisons. Donc en aucun cas, Pierre ne s'attribue quelque gloire. Et quand les gens vont le voir justement à la suite de ça pour dire « mais il le regarde comme si c'était un demi-dieu », il dit « mais pourquoi vous regardez ?»« À moi, c'est Jésus. C'est par le nom de Jésus que cet homme se tient debout et qu'il a été entièrement guéri. Ce n'est en aucun cas par une attaché au ministère d'évangéliste, dans le sens où, lorsque la parole de Dieu est annoncée, qu'il y a la prière pour les malades, ce don de guérison va être une confirmation de l'évangile qui a été semé dans les cœurs. Et c'est important aussi dans ce sens. Cinquième don spirituel mentionné, le don d'opérer des miracles. Alors, comme miracle, on peut citer par exemple Jésus qui va changer l'eau en vin, Jean chapitre 2, verset 9. Donc quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » On retrouve ici Jésus au début de son ministère, lorsqu'il a commencé à choisir ses disciples, et il se retrouve dans la ville de Cana, invité à un mariage. Et il y a un gros problème dans cette fête, c'est que il n'y a plus de vin à un moment donné. Et dans le monde oriental, se retrouver sans pouvoir honorer ses invités, c'est-à-dire sans vin pour une fête, c'était vraiment comme une honte qui se rattachait sur la famille qui invitait. Et donc c'est pourquoi Jésus est informé de la situation et il va s'intéresser à six jars rempli d'une certaine quantité d'eau. Alors si on fait le calcul de l'eau qu'il y avait dans ces jars, 2 à 3 mesures, ça faisait 500 à 700 litres d'eau qui était là dans ces jars, de l'eau qui était destinée à la purification des Juifs. Et donc Jésus dit, commencez par remplir jusqu'à ras-bord ces vases. Ça faisait donc une grande quantité d'eau. Et là encore, les serviteurs devaient se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus nous parle d'eau? On manque de vin. Et Jésus commence par demander beaucoup d'eau. Quel est le sens de ce qu'il veut? Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Parfois, on ne comprend pas toujours ce que le Seigneur nous demande. Mais lui, au moins, il sait exactement pourquoi, parce qu'il va transformer cette eau en vin. Seulement, il ne le dit pas encore. Et lorsque le miracle est accompli, et qu'il demande à un serviteur d'aller faire goûter ce vin, car maintenant ce n'est plus de l'eau, à l'ordonnateur du repas, au responsable de la cérémonie, alors, immédiatement, cet homme qui est habitué aux choses de valeur, il se rend compte que c'est un vin exceptionnel. C'est un vin que Jésus vient de faire lui-même, qui pourtant n'a pas... On sait que le vin, il doit demeurer dans les tonneaux un certain temps, il va fermenter, il va se bonifier avec le temps. Et là, Jésus a compressé le temps pour qu'en un instant, un vin succulent bien soit fait, alors qu'il aurait fallu naturellement, selon les lois naturelles, il aurait fallu des années pour se procurer un vin de cette qualité. Ça, c'est le miracle de Jésus qui va donc renverser les lois naturelles que nous connaissons. Alors c'est ça, le miracle, c'est un acte puissant qui va bouleverser les lois naturelles. On ne peut pas l'expliquer par la science. On lit ce passage, on est devant un miracle. Vous avez d'autres miracles comme la mer rouge qui s'ouvre en deux, comme Pierre qui marche sur les eaux. Ce sont des choses qui sont inexplicables. Alors, effectivement, les guérisons, on a parlé juste avant des guérisons, souvent les guérisons sont englobées dans les miracles. Et on dit, pour parler d'une guérison, on va dire, mais c'est un miracle. C'est vrai, dans un sens, parce que les miracles, c'est un terme générique. Cependant, on peut préciser quand même que les guérisons ont trait au corps, l'âme et l'esprit d'une personne. C'est donc, ça concerne un individu. Tandis que les miracles, c'est beaucoup plus général, dans le sens où ça touche à la nature. Par exemple, la tempête apaisée, par exemple, la multiplication des pains. Donc Jésus va créer des pains, va créer des poissons en grande quantité. Et tous les miracles, ce sont donc des actes sur la nature. Sixième don spirituel, c'est le don de prophétie. Et nous trouvons un texte qui explique cela dans 1 Corinthiens 14, verset 1. « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Qu'est-ce que la prophétie ? Il s'agit de retransmettre une pensée qui vient de Dieu en étant conduit par l'Esprit à l'Église. Alors, il y a deux excès à éviter quand on parle de la prophétie, et ça, ce que je vous dis là, c'est mentionné dans les Écritures. Le premier excès consisterait à mépriser les prophéties et à dire « ça ne sert plus à rien aujourd'hui, on n'en a pas besoin ». Bien, ce n'est pas vrai. Et le deuxième excès qui est aussi grave, c'est d'accorder aux prophéties une qualité d'infaillibilité et de dire qu'il n'y a pas besoin de les juger, ça vient de Dieu, etc. Or, la parole de Dieu nous dit de juger les prophéties. Donc, pourquoi je dis cela ? Parce que, quelquefois, certains sont partis sur une prophétie sans discerner, sans avoir de jugement, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux. Ils ont fait fausse route en se fiant uniquement à la prophétie. Ça peut être un élément déterminant, mais ça ne doit pas être le seul. Donc, il y a un équilibre là entre ne pas mépriser et ne pas considérer comme infaillible, mais il faut rester dans l'équilibre scripturaire. La prophétie n'est pas non plus une prédication. Quelle est la différence entre la prophétie et la prédication ? Je dis cela parce que certains croyants, notamment dans les commentaires bibliques, souvent assimilent la prophétie à la prédication de l'Évangile. Nous ne pensons pas. La prédication, c'est l'annonce de la parole de Dieu à partir d'un texte biblique et l'explication des Écritures. Tandis que la prophétie, elle ne se prépare pas. Autant la prédication, elle se prépare, autant la prophétie, on la reçoit instantanément de la part de Dieu. Donc, il n'y a pas de préparation, c'est différent. Aussi, le but de la prophétie, le but premier, ce n'est pas de prédire l'avenir. Parce que souvent, quand on dit le mot prophétie, les gens pensent, c'est pour prédire l'avenir. Ce n'est ni vrai dans l'Ancien Testament, ni vrai dans le Nouveau. Le but premier de la prophétie, c'est d'encourager le peuple, d'exprimer la volonté de Dieu, d'orienter le peuple à être fidèle au Seigneur, à marcher dans les voies de Dieu et à faire preuve de persévérance. Et la définition qui est mentionnée de la prophétie, c'est dans 1 Corinthiens 14, 3. Elle a pour but d'édifier, d'exhorter, de consoler. C'est vrai que quelquefois les prophéties concernent l'avenir, en tout cas en ce qui concerne le Nouveau Testament, les seules prophéties concernant l'avenir ont été données par des ministères de prophètes. Et on va voir qu'il faut distinguer la prophétie du ministère de prophètes. Car si tous peuvent prophétiser, dans le sens ceux qui sont remplis de l'Esprit peuvent recevoir des prophéties, tous ne sont pas des ministères de prophètes. Parce que la Bible distingue le ministère de prophètes qui lui aussi va prophétiser, mais il ne fait pas que prophétiser. Il a aussi le ministère de la parole, il a aussi d'autres qualifications qui font que c'est un ministère à part et qui n'est pas simplement le fait de prophétiser. Alors la prophétie, ne nécessite pas de préparation particulière. Pourquoi ? Parce que la personne ne sait ni si elle va prophétiser, ni ce qu'elle va dire dans la prophétie. Elle vient simplement dans un rassemblement comme celui-ci. Et ce qui est important, c'est d'avoir un cœur ouvert à l'action de l'Esprit. Et ça, ça va être important, être disponible devant Dieu, un peu comme cet outil qui est là sur l'établi du menuisier, par exemple, et le menuisier va choisir tel outil pour faire tel objet. De même, nous sommes des outils entre les mains de Dieu, et à chacun de nos rassemblements, nous devons être disponibles pour apporter un don spirituel comme la prophétie de la part de Dieu. Alors, Paul recommande d'aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. C'est le seul don pour lequel il est dit de surtout y aspirer. Et Paul va prendre l'exemple d'un auditeur qui vient au milieu de nous et qui entend quelqu'un qui prophétise. Et cette personne va dévoiler la situation de son cœur. Cet homme va être amené à la repentance. il va confesser son péché, il va se repentir, il va adorer Dieu, il va être sauvé. Alors la Bible ne dit pas que la prophétie va sauver une personne, mais qu'elle va lui amener à faire prendre conscience que Dieu existe et qu'ainsi il va pouvoir se repentir et donner son cœur au Seigneur. La prophétie, c'est donc un moyen d'interpeller les consciences pour faire réaliser que Dieu est réellement présent au milieu de son peuple et que Dieu est en train de nous parler. Ça, c'est le sixième don. Le septième don, c'est le don de discernement des esprits. Dans Actes chapitre 8, verset 22, nous voyons là, c'est encore Pierre qui va réaliser la situation spirituelle d'un homme qui est là dans l'église, mais sa situation n'est pas bonne. Acte 8, verset 22, « Repens-toi donc, » il parle à Simon le magicien, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. » Le discernement, c'est dans ces mots, « car je vois » ou « car je discerne », »,« car je ressens de la part de Dieu, je le vois » dans ta vie. Simon, qui était un magicien, attirait les foules par ses prodiges, mais les prodiges qu'il faisait venaient du diable. Ce n'était pas sous l'action de Dieu. Et ceci nous montre que le diable est capable aussi de faire des actes étonnants pour séduire les gens et les attirer dans la voyance, dans la magie et l'astrologie et toutes ces choses. Alors cet homme, Simon le magicien, a entendu la prédication de l'évangile par Philippe, un évangéliste, et il a été touché dans son cœur au point qu'il a demandé le baptême et qu'il ne quittait plus Philippe. Il allait à toutes les réunions où il y avait l'annonce de l'évangile. Mais dans son cœur, quand même, il y avait quelque chose qui était un peu bizarre, c'est qu'il était toujours attiré par le surnaturel. Peut-être qu'il y a quelque chose dans sa vie qui n'avait pas vraiment converti à Dieu, qui n'avait pas abandonné au Seigneur, parce qu'il était vraiment toujours attiré par ça, parce que quand il voit des baptêmes du Saint-Esprit, il vient avec de l'argent vers Pierre pour lui dire « Moi, je veux acheter la possibilité de faire des baptêmes dans le Saint-Esprit à d'autres personnes. » Donc on voit qu'il était mal orienté. Et il y a quelque chose qui n'était pas au clair dans sa vie. Alors, peut-être qu'il croyait même que Pierre, c'était aussi un magicien, entre guillemets, comme lui, il était avant, et qu'il avait des pouvoirs, et que lui aussi, il voulait avoir les mêmes pouvoirs que Pierre. Pierre a discerné donc l'état spirituel de cet homme. « Car je vois, » au verset 23, « je vois que tu es dans un fiel amer. » Le fiel amer, c'est une tournure sémitique qui signifie que la personne a abandonné le Seigneur pour se tourner vers des idoles. On retrouve cette expression dans Deutéronome 29-18. Ça désigne l'amertume, un esprit de méchanceté, un esprit d'amertume, et aussi un poison, comme si cet homme était empoisonné par le diable et qu'il s'était laissé contaminer. Les liens d'iniquité dont il est question, tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité, ce sont les liens invisibles qui font de lui un prisonnier. Il était l'esclave de l'adversaire. Alors, avait-il eu vraiment la foi? Alors, on peut se poser la question dans le cas de Simon le magicien. S'était-il réellement converti? Ou avait-il on va dire, touché superficiellement et puis s'était fait baptiser? Parce que malheureusement, il y en a aussi qui se font baptiser un peu vite et en réalité, ils n'ont pas vraiment vécu la conversion. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'était pas réellement affranchi, puisque Pierre dit « Tu es dans des liens d'iniquité ». Mais Jésus a dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous libère, vous serez réellement libre. » Donc il n'avait pas vécu cette pleine libération de Jésus. Alors il a été dévoilé, c'est ça le discernement des esprits, c'est une révélation du monde des esprits, diakrisis qui signifie « juger à travers ». Ce don nous permet de voir ce qui est invisible, de distinguer ce qui est divin, de ce qui est humain ou de ce qui est démoniaque. Alors ce n'est pas une impression humaine, ce n'est pas une approche psychologique, c'est un don spirituel qui vient de Dieu. Alors le huitième don, c'est la diversité des langues. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour bien comprendre le parler en langue, il faut distinguer les deux sortes de parler en langue qui existent dans la Bible. Le premier, c'est celui qui est consécutif au baptême du Saint-Esprit. Donc, quand, par exemple, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils se mettaient à parler en langue. Ça, ce n'est pas le don spirituel dont il est question dans 1 Corinthiens 9. C'est un don qui est accordé suite au baptême du Saint-Esprit, qui sert à parler à Dieu, à rendre d'excellentes actions de grâce et à s'édifier soi-même. Et dans son culte personnel, c'est important de continuer à parler en langue, de ce type-là, de parler en langue. Tandis que le don de la diversité des langues qui est mentionné dans notre liste 1 Corinthiens chapitre 11, c'est un don qui est adressé à l'Église. Il n'est pas adressé à Dieu. Il n'est pas pour s'édifier soi-même, il est pour édifier les autres. Alors on peut le distinguer, et là il devient don spirituel, pour l'utilité commune, pour l'Église. Et là il va nécessiter d'autre part une interprétation. Il n'est pas compris par celui qui exerce ce don, et il n'est pas compris non plus par celui qui va l'interpréter. Lorsqu'une langue est interprétée, cela équivaut à une prophétie. C'est-à-dire, le but est toujours d'édifier l'Église. Mais lorsqu'il n'y a pas d'interprète, la Bible nous dit de faire silence et de se parler à soi-même et à Dieu. La Bible nous montre qu'il y a une grande diversité des langues, soit humaines, soit célestes. Mais en tout cas, elles ont toutes une signification. Maintenant, il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'interprétation. Quelqu'un va donc donner un don en langue dans l'auditoire, et puis il n'y a pas d'interprétation. C'est un cas de figure qui peut se produire, puisque la Bible dit dans 1 Corinthiens 27, « S'il n'y a point d'interprète ». Donc, dans ce cas-là, pourquoi? C'est qu'à ce moment-là, personne n'a pu interpréter la pensée de Dieu qui était dans la langue, et elle ne peut être communiquée à l'Église. Donc, le don, en quelque sorte, n'aboutit pas. Ou alors, c'était peut-être aussi un parler en langue qui s'adressait à Dieu et non à l'Église. Dans ce cas-là, il rejoint le premier type de parler en langue dont on a parlé, c'est-à-dire consécutif au baptême du Saint-Esprit, mais il n'a pas à être traduit puisque il s'adresse à Dieu, il est fait pour s'édifier soi-même. Et donc dans ce cas-là, c'est le premier aspect du parler en langue. Au sujet des langues, la parole de Dieu recommande l'équilibre. Il ne faut pas non plus que tout soit en langue, mais il ne faut pas l'empêcher. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 14, verset 39, peut-être on peut lire ça, parce que c'est la conclusion de Paul sur les dons spirituels qui évite les excès. 1 Corinthiens 14, 39. « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Donc on voit bien que la bienséance et l'ordre ne sont pas incompatibles avec une puissante action de l'esprit. Et ce n'est pas parce que c'est désordonné, parce que c'est n'importe quoi, que ça va être plus l'action de l'esprit. Il y a parfois eu cette mentalité au sein de certains croyants qui ont recherché plus le bizarroïde et le spectaculaire que la réelle présence de l'esprit. En tout cas, Paul est clair que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Mais n'empêchez pas le parler en langue. Ça s'adresse à ceux qui refusent ce don spirituel, qui considère qu'il est dépassé, qu'il n'est plus pour aujourd'hui et qu'il était réservé au premier temps de l'Église. Et je termine, on a essayé de faire assez vite pour voir les neuf dons avec le neuvième qui est l'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 13. Il est donc complémentaire du don précédent, on a parlé du parler en langue comme don spirituel et ici c'est l'interprétation. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Le don d'interpréter, ça consiste à recevoir l'interprétation de manière surnaturelle d'un message en langue inconnue qui a été adressé dans l'auditoire afin que tout le monde comprenne ce que Dieu veut exprimer. Il ne s'agit pas à proprement parler de traduction. Ce n'est d'ailleurs pas le mot qui est utilisé, mais c'est le mot d'interprétation. Pourquoi on ne parle pas de traduction ? Tout simplement parce que la personne qui interprète ne connaît pas la langue de la personne qui a parlé. Donc ce n'est pas une traduction littérale, la personne qui va interpréter ne connaît ni la langue, ni la grammaire, ni la syntaxe qui est utilisée pour parler. La personne qui interprète s'oriente uniquement pour recevoir la pensée de Dieu, pour interpréter la langue. Donc, on ne peut pas dire que ça soit de la traduction. Lorsque la personne commence à interpréter, elle va recevoir les mots qui vont diriger ses paroles, elle va recevoir de Dieu. Et peut-être elle ne va recevoir que quelques mots, les premiers mots du début, et ensuite elle reçoit au fur et à mesure où elle interprète le message de Dieu. C'est donc par la foi que nous exerçons les dons spirituels. Il faut en quelque sorte oser dire ce que Dieu a mis sur notre cœur, et ensuite Dieu pourvoit pour tout le don qui va se dérouler ainsi. Alors en conclusion, on va terminer ce sujet. On a parlé des dons spirituels, on se rend compte que c'est une grande richesse pour l'Église aujourd'hui. Il y a une grande diversité, je le disais en introduction, ce n'est pas uniforme, mais on voit la manière de Dieu d'agir est diversifiée suivant les lieux, suivant les temps, suivant les cas de figure, il n'y a pas de limite. Alors, c'est indispensable d'y aspirer, de les rechercher, parce que ça va manifester la puissance de Dieu dans notre pays. Chacun, je dirais chacun pour notre part, nous devons nous attacher à aspirer et à rechercher avec ardeur, avec persévérance, les dons spirituels. Paul le recommande à plusieurs reprises, aspirer. Il dit même, je voulais terminer avec ce verset en conclusion, 1 Corinthiens 14, 2, 12, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Que Dieu soit béni, parce que la vision est grande. Que nous cherchions à Toulouse-Ouest à en posséder abondamment pour la seule gloire du nom de Jésus. On va prier le Seigneur. Merci pour ta parole qui nous montre cette richesse spirituelle qui est à la disposition de ton Église, et nous voulons te bénir pour l'action de l'Esprit. Encore au milieu de nous, continue Seigneur ton œuvre dans les cœurs et les vies. Accorde-nous d'expérimenter ces dons spirituels que nous avons évoqués et permets-nous de vivre intensément dans la foi et dans le nom de Jésus. Merci de garder chacun dans ta paix, de nous bénir, et que ta grâce et ta paix nous accompagnent dans le nom de Jésus. Amen.